Le sujet d'aujourd'hui, c'est chercher, trouver, atteindre un conjoint. Alors, en introduction, je lirai simplement deux versets. Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et puis, en Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relèvera son compagnon. Si l'on couche à deux, on a de la chaleur. Et si quelqu'un a le dessus sur un seul, les deux lui tiendront tête. Et la corde triple ne rompt pas vite. Je pense qu'avec ces passages, déjà, on voit qu'il est normal qu'une personne désire se marier. Mais avec qui se marier? Dans quelques jalons posés par Dieu. Genèse 1, verset 28. Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Amos 3, verset 3. Deux hommes ou deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? 1 Corinthiens 7, verset 39. Elle, non, la femme veuve déliée de la loi du mari, ce qui est développé en Romains 7, mais je pense que ce verset, je l'ai pris parce que je pense qu'on peut l'appliquer à tous. Elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. Alors, les versions, c'est à peu près unanime. La plupart des versions littérales disent dans le Seigneur, et les versions plus dynamiques disent que ce soit avec un chrétien ou une personne chrétienne. Alors, je pense que avec ces quelques versets, on peut répondre déjà en partie à la question avec qui se marier. Et si j'ai mis que Dieu dit fructifier et multiplier, c'est justement pour enlever déjà un doute où une personne doit se marier avec un sexe opposé, une personne du sexe opposé. Parce que dans un autre cas, il n'est pas donné la procréation. La procréation n'est donnée qu'à un couple, homme et femme. La deuxième chose qu'on peut en déduire, c'est que quand on est chrétien, on doit se marier avec une personne chrétienne. Chercher, trouver, attendre. Je ne pense pas répondre à cette question. Mais avant, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Parler du Seigneur Jésus. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il pris et cherché son épouse? Est-ce que c'est parce qu'elle était belle extérieurement? Est-ce qu'elle avait de l'attrait? Non. La Bible dit que nous étions haïssables et nous haïssant l'un l'autre. Donc ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a pris comme épouse. C'est uniquement parce qu'il nous aimait. Le Seigneur aime sa créature et c'est pour cela. Il l'a pris parce qu'il aimait, par amour pour elle, par amour pour lui et pour aussi nous faire partager toutes ses gloires, tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, il veut nous le faire partager et c'est pour cela qu'il nous a pris. Et je crois que ça, c'est l'amour, vraiment l'amour inconditionnel. Et cela nous parle. Je ferme la parenthèse. On va lire dans Proverbe 15, verset 17, le verset. Un verset peut-être un peu dur. Mieux vaut un repas d'herbe et de l'amour qu'un bœuf engraissé et de la haine. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler sur les mots employés dans le Nouveau Testament sur l'amour. Et ça, c'est important. Quelle forme d'amour? Donc, il y a deux mots employés. C'est agapé, c'est la forme la plus haute, la plus noble de l'amour, qui voit la personne aimée comme infiniment précieuse. C'est le mot qui est le plus employé dans le Nouveau Testament. Cette forme d'amour dépend plus de la volonté d'aimer, que le désir d'aimer. Philia Phileo se disent pour un sentiment d'amitié très fort, s'exprimant éventuellement par des gestes d'affection. Ils sont utilisés pour l'amour entre parents et enfants, l'amour filial. Cet amour envers le prochain ne doit pas se calculer. Jésus a dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, aimer ses ennemis. Et puis le troisième mot en grec, eros, qui caractérise l'aspect passionnel, n'est pas employé dans le Nouveau Testament. Ce mot n'est pas employé dans le Nouveau Testament. Donc attention à cet amour-là, si on base son mariage sur cet amour-là. Si l'amour est indispensable dans le couple, il y a des cas où ce n'est pas l'amour, mais uniquement l'obéissance et une conviction qui ont conduit au mariage. L'amour est venu après. Et comme exemple, eh bien, il y a celui bien connu d'Isaac et de Rebecca. Il est dit dans Genèse 24, verset 67, « Isaac la conduit dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima. » Et puis, je veux dire que nous connaissons plusieurs couples de notre âge, et ça nous a surpris un petit peu, mais qui se sont mariés uniquement par conviction, et l'amour est venu après. Et ce sont des couples qui marchent très très bien. J'aurais jamais cru que ce soit uniquement parce qu'ils pensaient que c'était la volonté du Seigneur qu'ils devaient se marier. Ils se sont mariés et après, l'amour est venu après. Mais je ne pense pas que ce soit quand même le plus courant, je ne sais pas. Un autre verset, dans Proverbe 30, versets 18 à 19. Dans les quatre choses qu'augure ne peut connaître, vous savez, il dit, il y a trois choses qui sont trop merveilleuses pour moi et quatre que je ne puis connaître. Il est parlé du chemin de l'homme vers la jeune fille. Et c'est là où nous avons des promesses. Dieu nous aime chacun en particulier. Il veut le meilleur pour chacun de nous. Nous pouvons entièrement nous reposer sur cette promesse. Et j'aimerais parler là à tout particulièrement aux jeunes, puisqu'il y en a plusieurs qui sont là aussi. Vous savez, Dieu vous aime tous particulièrement. Vous n'êtes pas un sujet au milieu des autres, mais vous êtes un sujet particulier, chacun de vous. Et il veut le meilleur pour vous, c'est sûr. Comme vos parents sont prêts à vous payer des études, même qui reviennent chères, pour que vous puissiez faire ce que vous vouliez, eh bien, Dieu, c'est pareil, et lui, c'est même encore plus. Donc, vous pouvez lui faire entièrement confiance pour toute votre vie, que ce soit pour vos études, pour le mariage. Il veut le meilleur pour vous. Vous pouvez vous attendre à lui. Il vous donnera le meilleur. Cependant, c'est vrai que si on n'a pas toujours tout de suite le meilleur, je dirais, ou tout de suite, c'est parce qu'on a des choses à apprendre. Les choses viennent les unes après les autres. Et aussi, ben des fois, à cause de nos bêtises, on prend des chemins détournés, ou il est obligé de nous faire prendre des chemins détournés pour nous ramener. Mais sinon, vous pouvez vous reposer sur lui, il veut le meilleur pour vous. Donc, je privilégierais beaucoup mieux de s'attendre au Seigneur, en faire un sujet de prière, le laisser diriger nos voies, peut-être aussi lui demander qu'il nous mette l'amour, qu'il mette l'amour dans notre cœur pour la personne qui nous est destinée. Il y a aussi une chose que je vais ouvrir une autre parenthèse. Il est difficile de savoir quelle est la volonté du Seigneur, de savoir si ce que l'on pense est la volonté du Seigneur. Alors là, je peux vous mettre tous en confiance, c'est que ben, vous êtes les jeunes, vous n'êtes pas les seuls à vous le poser, parce que tout le monde se la pose cette question à un moment ou l'autre. Et même ceux qui sont très près du Seigneur, même ceux qui sont, je dirais, missionnaires, qui ont l'habitude de toujours s'attendre au Seigneur, ont quelquefois sont des fois un peu dans le brouillard, je dirais. Ils ne savent pas si le chemin qui s'ouvre devant eux est la volonté du Seigneur. Alors, je vais vous dire un petit truc qui marche. C'est qu'il faudrait que trois conditions soient réunies. La première condition, c'est que ce que vous pensez, il faut que ce soit bien selon la Bible. Première condition, que ce que vous pensez est bien tout à fait selon la Bible. La deuxième condition, ben, c'est de se laisser justement diriger par le Seigneur. Et de laisser les portes s'ouvrir devant nous et ne pas vouloir ouvrir des portes fermées. Très grave, ne pas vouloir ouvrir une porte fermée. Ne pas vouloir aussi, attention aux portes vitrées aussi. Un jour, un collègue m'a dit, attention, fais attention aux portes vitrées. C'est vrai que les portes vitrées, ça fait mal. La troisième condition, c'est d'être en paix avec soi et avec Dieu. C'est-à-dire de se sentir en pleine communion avec Dieu et d'être en paix avec soi. Si ces trois conditions sont là, eh bien, vous pouvez vous dire que ce que vous pensez, c'est bien la volonté du Seigneur. Alors, il y a quand même une question que je vais poser. Pourquoi le verset qu'on a lu tout à l'heure dit le chemin de l'homme vers la jeune fille? Et là, toutes les versions sont toutes d'accord là-dessus. Il est tout dit le chemin de l'homme vers la jeune fille. Sauf il y a une version, c'est peut-être Parole de vie, qui dit le chemin de l'homme vers la fille. Mais sinon, c'est tout pareil, le chemin de l'homme vers la jeune fille. Pourquoi? Eh bien, je pense que s'il est dit l'homme, c'est que l'homme par rapport au jeune homme est peut-être plus mature pour prendre les décisions qui doivent être prises dans le couple. Quand il y a un couple, il y a des décisions qui doivent être prises et peut-être l'homme est plus mature. Et la deuxième chose, je pense, mais là les frères pourront le dire aussi, en parler là-dessus peut-être, c'est que l'homme est capable de gagner sa vie et de gagner la vie, de gagner de l'argent pour justement pour le foyer, me semble-t-il. La décision. Genèse 24, verset 58. Ils appelèrent Rebecca et lui dirent, iras-tu avec cet homme? Et elle dit, j'irai. Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Genèse 26, verset 34. Et Ésaü était âgé de 40 ans et il prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Héthien, et Basmath, fils de Hélon, le Héthien. Et elles furent une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. Et on se souvient que, après avoir pris ces deux femmes pour se racheter, il a voulu prendre encore une fille d'Ismaël. Mais là encore, il montre qu'il n'avait pas tout à fait recherché la volonté de Dieu. La décision est une chose sérieuse pour la vie. Elle doit être prise par chacun devant Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament de mariage ou de couple, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. J'en retiendrai simplement deux. Samson, qui ne regardait qu'à l'extérieur, elle plaît à mes yeux, et c'est arrivé plusieurs fois. Juges 14, verset 3. Et puis Salomon, en 1 roi 11, Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Ces femmes détournèrent son cœur. Il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ces femmes détournèrent son cœur d'auprès d'autres dieux. Maintenant, le sujet, un sujet d'actualité, l'homosexualité. C'est l'évolution de notre société qui nous oblige à nous pencher un peu sur ce problème. C'est quelque chose qui devient normal. Pourquoi? Parce que notre société a l'habitude de normaliser les choses qui se font. Donc maintenant, ce n'est plus une chose anormale, c'est une chose normale. Et pourtant, que dit la Bible? Et la Bible est très claire et je crois qu'on est tous d'accord sur ce sujet. Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un mâle comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Romains 1, et là c'est un passage important qu'il faudra que vous regardiez en entier, et je crois que c'est celui qui éclaire tout. J'ai simplement là aussi mis les points importants, mais il faut le lire en entier en fait. Donc Romains 1, versets 18 à 32. Donc ces passages nous parlent du processus qui a amené Dieu à livrer les hommes à leur mentalité réprouvée. Alors il y a des parce que et des c'est pourquoi. Le premier parce que, verset 19, l'homme n'a pas voulu reconnaître Dieu dans la création si merveilleuse qui nous entoure. Le deuxième parce que l'homme, ayant connu Dieu, ne lui a pas donné gloire. Alors c'est pourquoi, verset 24, Dieu aussi les a livrés dans leur convoitise de leur cœur à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créé, qui est béni éternellement. Amen. Deuxième, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et les hommes aussi pareillement, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrassés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie, mal avec mal, et recevant en eux-mêmes la due récompense de leur égarement. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé, ou alors à leur intelligence sans jugement, pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas. 1 Corinthiens 6, verset 11. « Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Et quelques-uns de vous, vous étiez tels, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Pour conclure, je dirais, il n'est jamais trop tard pour venir à Dieu. Amis chrétiens, ayons notre conscience toujours aiguisée pour savoir reconnaître le mal, pour savoir appeler mal ce qui est mal et bien ce qui est bien, pour savoir aussi l'expliquer, le dire, le défendre peut-être, mais il faut cependant, et ça je le dis parce que ce n'était pas tout à fait ma position il y a quelque temps, il faut cependant ne pas repousser un homme quel qu'il soit, que quelque homme qu'il soit, même aussi les homos, même ceux qui sont les plus dépravés de la vie, Dieu les aime et désire les sauver. Pour qu'ils puissent eux aussi donner leur avis ou donner des choses de la part de Dieu.